Chapitre 2. 6 janvier 2201. Je bois du noir depuis 2 jours et je me sens lasse, très lasse. Je sais que c'est fréquent après un accouchement, mais je n'arrive pas à me ressaisir. Ce matin, je me suis éveillé la première. Richard dormait près de moi et Simone dans son berceau de fabrication raméenne. Son avenir m'angoisse. L'euphorie qui a accompagné sa naissance s'est dissipée. De nombreuses questions traversent mon esprit. Quelle vie sera la tienne, ma petite Simone? Comment pourrons-nous t'apporter le bonheur? Tu seras condamnée à vivre avec tes parents et leur ami Michael O'Toole dans un refuge souterrain, aménagé à l'intérieur d'un vaisseau spatial extraterrestre démesuré. Tu auras pour seule compagnie 3 adultes, les derniers membres d'une expédition envoyée 1 an plus tôt explorer ce monde cylindrique qu'est Rama. Il n'y avait plus que ta mère, ton père et le général O'Toole à bord de ce Léviathan de l'espace lorsqu'il a dû brusquement changer de cap pour esquiver une salve de missiles nucléaires tirés contre lui par une Terre paranoïaque. Notre abri s'ouvre entre les étranges tours d'une île que nous appelons New York, au centre de la mer gelée, qui divise en 2 hémicylindres la nef gigantesque. Ton père a calculé que nous traversons l'orbite de Jupiter sur une trajectoire hyperbolique qui nous conduira hors du système solaire. Nous ignorons quelle est la destination de Rama, qui l'a construit et dans quel but. Nous savons seulement qu'il a d'autres passagers à son bord, mais pas d'où ils viennent. Nous avons par ailleurs des raisons d'en soupçonner certains de nourrir de mauvaises intentions à notre égard. Depuis 2 jours, mes pensées suivent une voie qui mène à une conclusion déprimante. Il est impardonnable que des adultes soi-disant conscients et responsables aient engendré une enfant vulnérable et innocente alors qu'ils vivent dans un milieu dont ils comprennent si peu de choses et sur lequel ils n'ont aucun contrôle. J'ai pleuré ce matin, sitôt après m'être souvenu que c'était mon 37e anniversaire. Je m'apitoyais non seulement sur le sort de Simone, mais aussi sur le mien. Perdu dans les souvenirs d'une planète que ma fille ne connaîtra jamais, je me posais toujours la même question. Pourquoi avais-je eu un enfant alors que nous étions dans un pareil merdier? Ce mot peu élégant est souvent employé par Richard. Il a pour lui des utilisations illimitées. Il l'applique à tout ce qu'il ne peut maîtriser, que ce soit un problème technique ou domestique. Comme une épouse qui sanglote en proie à une dépression post-natale. Les hommes sont dans l'incapacité de me réconforter. En essayant de me remonter le moral, ils obtiennent l'effet inverse. Pourquoi ne comprennent-ils pas? Mais je suis injuste, car Michael a eu 3 enfants et doit savoir ce que j'éprouve. Cependant, mes pleurs ont bouleversé Richard. Il croyait que ma souffrance était physique et lui dire que je me sentais déprimé ne l'a guère rassuré. Je lui ai fait part de mes inquiétudes pour Simone. J'admets que mes propos devaient manquer de cohérence, mais il n'a pas saisi le fond de ma pensée. Il se contentait de répéter que l'avenir de notre fille n'était pas plus incertain que le nôtre, comme si un tel raisonnement pouvait me rasséréner. Il a fini par conclure qu'il ne me serait d'aucun secours et m'a enfin laissé seul. 6 heures se sont écoulées et je me sens mieux. Mon 37e anniversaire appartiendra sous peu au passé. Ce soir, nous avons organisé une petite fête et Michael nous a laissé il y a une 15 minutes pour regagner sa chambre. Richard s'est endormi si tôt que sa tête a touché l'oreiller. Il a consacré toute la journée à tenter d'améliorer la qualité des couches de notre fille. Il s'est en outre fixé pour but de répertorier les possibilités de communication avec les Raméens, s'il convient de donner ce nom aux êtres que nous joignons par l'entremise du clavier d'un étrange ordinateur. Il est impossible de voir quoi que ce soit dans le tunnel obscur qui s'ouvre derrière son grand écran. Nous ne savons pas s'il abrite des créatures qui se chargent de fabriquer tout ce que nous leur demandons, mais il est plus simple de nous référer à nos bienfaiteurs en les appelant ainsi. Nous faire comprendre est à la fois aisé et difficile. C'est compliqué, car nous nous adressons à eux en utilisant des symboles et des formules empruntées au langage précis des mathématiques, de la physique et de la chimie. C'est simple sur le plan de la syntaxe, car il suffit de saisir sur le clavier « nous aimerions » ou « nous voudrions ». Nous ne connaissons pas l'acception exacte des signes correspondants. Puis, de fournir une description détaillée de ce que nous souhaitons obtenir. C'est la chimie qui nous pose un problème. Des produits aussi courants que le savon, le papier et le verre ont une composition difficile à spécifier. Parfois, il est également nécessaire de préciser le processus de fabrication et nous arrivons à nos fins par tâtonnement. Au début, nous étions exaspérés et regrettions de ne pas avoir été un peu plus attentifs quand nous suivions des cours de chimie pendant nos études. Ce sont d'ailleurs les difficultés rencontrées pour nous doter des choses essentielles à notre vie quotidienne qui ont été à l'origine de la grande expédition, comme Richard se plaît à l'appeler, qui a eu lieu voilà 4 mois. La température ambiante, tant dans New York que partout ailleurs à la surface de Rama, était descendu à moins 5 degrés centigrades et mon mari nous avait confirmé le gel de la mer cylindrique. Je craignais que nous ne soyons pas prêts à accueillir le bébé dans des conditions acceptables. Faire fabriquer et installer des toilettes nous avait par exemple pris 1 mois complet et le résultat laissait à désirer. Ces contretemps étaient presque toujours dus à des malentendus avec nos hôtes, mais aussi à des problèmes techniques. Dans notre langage symbolique commun, les Raméens nous avaient à plusieurs reprises informés qu'ils ne pouvaient assurer la fabrication de certains articles. Et un matin, Richard nous annonça qu'il comptait quitter notre refuge pour tenter d'atteindre le module militaire de l'expédition Newton, toujours amarré au sas de Rama. Il voulait récupérer les fichiers de la banque de données scientifiques des ordinateurs de bord, ce qui nous aiderait à formuler les demandes que nous adressions aux Raméens, mais il avoua qu'il était également motivé par le désir de manger de la nourriture décente. Les préparations fournies par nos hôtes nous apportaient des calories, mais étaient pour la plupart insipides, voire infectes. Le savoir-faire des cuisiniers extraterrestres n'était pas en cause. Nous pouvions leur décrire les ingrédients nécessaires à notre métabolisme, mais aucun de nous n'avait étudié la biochimie gustative. Manger était une nécessité, pas un plaisir. La bouillie s'avérait souvent difficile ou impossible à avaler. Nous avions fréquemment des nausées à la fin des repas. Nous consacrâmes près d'une journée à peser le pour et le contre. Arrivé à un stade pénible de ma grossesse, je n'étais guère enthousiaste à la perspective de rester seul pendant que mes compagnons traverseraient la mer gelée, chercheraient le VLR, utiliseraient ce véhicule pour traverser la plaine centrale, puis emprunteraient le télésiège ou graviraient les innombrables marches les séparant du relais Alpha. Mais j'avais conscience qu'un voyage en solitaire eût été trop risqué. Richard pensait que le VLR devait être utilisable, mais doutait que le télésiège fût toujours en état de marche. Nous parlâmes longuement des dégâts qu'avait pu subir notre appareil lorsque les missiles nucléaires avaient explosé au-delà du bouclier protecteur de Rama. Les caméras extérieures nous permettaient de l'observer, et comme nul dommage n'était visible, Richard estimait que les radiations avaient pu l'épargner. Je ne partageais pas son optimisme. Pour avoir collaboré à la conception du blindage des modules Newton, je savais leur sous-système très vulnérable au rayonnement. La banque de données scientifiques devait être intacte, car ses mémoires bénéficiaient d'une bonne protection, mais j'étais convaincu que les vivres avaient été contaminés. J'étais moins angoissé par la perspective de souffrir de la solitude pendant quelques jours ou une semaine que par le risque qu'un des hommes, ou les deux, ne revînt pas de ce voyage. Les octopodes et autres extraterrestres qui vivaient avec nous dans cette immense nef intergalactique n'étaient pas les seuls dangers. Rama risquait par exemple d'entamer une manœuvre brutale. Richard et Michael me promirent d'être très prudents et de se borner à effectuer un aller-retour jusqu'au vaisseau militaire. Ils partirent à l'aube d'une journée raméenne de 28 heures et je me retrouvai seul pour la première fois depuis mon interminable séjour au fond d'un puits new-yorkais. Ou presque seul, car Simone me rappelait sa présence en me donnant des coups de pied. Avoir en soi un être vivant procure une sensation extraordinaire. C'est merveilleux. Je regrette que les hommes ne puissent en faire l'expérience. Dans le cas contraire, peut-être comprendraient-ils pourquoi les mères s'inquiètent tant de l'avenir de leurs enfants. Le troisième jour terrestre après leur départ, je ne pouvais plus rester en place et je décidai d'aller me promener dans New York. C'était la nuit dans Rama et l'air était vif. Je marchais depuis quelques instants quand un son familier s'éleva dans le lointain. Je frissonnais et m'arrêtai aussitôt. L'adrénaline dut également se répandre dans le fœtus, car Simone me donna des coups de pied vigoureux. Moins d'une minute plus tard, j'entendis des bruissements et des gémissements suraigus. Je ne pouvais me tromper sur leur origine. Un octopode rôdait dans New York. Je me hâtais de regagner notre refuge pour attendre le lever de l'aube. Quand le jour se leva, je regagnai la surface. À proximité du hangar qui couvrait le puits, ce lieu où j'étais resté si longtemps captive, j'eus des raisons de remettre en question les déclarations de Richard, qui affirmait que les octopodes ne sortaient que la nuit. 2 mois après l'appareillage de Rama, avant la mise en place à l'entrée de notre habitation souterraine d'une grille qui interdirait l'accès aux visiteurs indésirables, il avait disposé des détecteurs rudimentaires autour du couvercle de l'antre de ces monstres. Ces derniers avaient découvert et détruit son installation, mais il estimait que les résultats obtenus confirmaient ses suppositions. Ce qui ne me fut pas d'un grand réconfort quand j'entendis un grondement menaçant. Je me trouvais dans le hangar, devant la fosse où j'avais failli mourir d'inanition 9 mois plus tôt. Mon pouls s'emballa. Le son provenait d'un point proche de notre refuge. Je revins prudemment sur mes pas et jetai un coup d'œil à l'angle de chaque immeuble avant de m'aventurer à découvert. Je poussai un soupir de soulagement en voyant de quoi il retournait. Richard utilisait une tronçonneuse rapportée du module Newton pour découper un filet élastique d'environ 3 mètres de côté, tendu entre 2 des petites constructions cubiques situées à une centaine de mètres de l'entrée de notre abri. Nous nous étreignîmes, puis les 2 hommes me racontèrent leur voyage. Le VLR et le télésiège fonctionnaient toujours. Comme les appareils de mesure signalaient la présence de radiation dans le module militaire, ils ne s'y étaient pas attardés et avaient laissé sur place les vivres contaminés. Cependant, la banque de données scientifiques était intacte et Richard avait utilisé un logiciel de compression pour stocker son contenu dans des cubes compatibles avec nos ordinateurs portatifs. Ils avaient également rapporté un grand sac d'outils divers qui nous serait utile pour achever l'aménagement de notre refuge. Richard et Michael travaillèrent sans relâche jusqu'à la naissance de Simone. Les informations fournies par la banque de données nous permettait désormais de préciser aux Raméens la composition chimique exacte de tout ce dont nous avions besoin. Je testai même des esters qui me permirent d'apporter un peu de saveur à notre nourriture. Michael aménagea sa chambre, Richard fabriqua un berceau pour Simone et nous améliorâmes les performances du cabinet de toilette. Compte tenu de la situation, Nos conditions d'existence sont désormais acceptables. Bientôt peut-être... Ah, j'entends des pleurs. C'est l'heure de la tétée. Je cherche à déterminer les causes de ma dépression nerveuse. Noël et la nouvelle année sont des fêtes collectives, alors que seul le principal intéressé est concerné par son anniversaire. J'ai toujours mis le mien à profit pour faire le point et dresser un bilan. Des souvenirs sont plus poignants que d'autres, et ce matin ils m'ont empli de nostalgie et de tristesse. Ne pas pouvoir assurer la sécurité de Simone m'était insupportable. Mais même au plus profond de mon abattement et confronté à tant d'incertitudes, je n'ai pas regretté sa naissance. Non, nous sommes des voyageuses unies par le plus puissant des liens, celui qui ne peut s'établir qu'entre un enfant et ses parents. J'ai éprouvé cela avec ma mère, mon père et Geneviève, ma fille aînée. N'est-il pas surprenant que tout ce qui se rapporte à ma mère soit toujours très net dans mon esprit? Je n'avais que 10 ans lorsqu'elle est morte, mais elle m'a laissé des souvenirs impérissables. Mon dernier anniversaire en sa compagnie fut merveilleux. Nous avions pris le train pour Paris. Mon père était vêtu d'un costume italien très élégant, ma mère d'un boubou bariolé. Avec ses cheveux remontés sur son crâne, elle avait tout d'une princesse Sénoufo, un titre qu'elle avait porté avant son mariage. Après avoir dîné dans un grand restaurant des Champs-Élysées, nous allâmes dans un théâtre pour assister à la représentation d'une troupe de danseurs d'Afrique occidentale. Après le spectacle, nous fîmes un saut dans les coulisses où ma mère me présenta une des danseuses, une femme magnifique à la peau noire d'ébène, une cousine éloignée originaire de Côte d'Ivoire. Les écouter converser en Sénoufo me remettait en mémoire les préparatifs du poro. Ce rituel initiatique auquel j'avais été soumise 3 ans plus tôt, et je m'émerveillais une fois de plus de constater à quel point les traits de ma mère devenaient expressifs lorsqu'elle était en compagnie de membres de son peuple. Mais je n'avais que 10 ans, et j'aurais préféré fêter mon anniversaire avec mes amis d'école. Ma mère prit conscience de ma déception pendant notre retour en train à Chilly-Mazarin.
Ne sois pas triste, Nicole, me dit-elle. Nous inviterons tes camarades l'année prochaine. Ton père et moi avons saisi cette occasion pour te rappeler quelles sont tes origines. Tu es française et tu as passé toute ta vie en France. Mais une moitié de ton être est Sénoufo et trouve ses racines dans les coutumes tribales de l'Afrique occidentale.
Plus tôt aujourd'hui, alors que je me rappelais ces danses ivoiriennes, je me suis imaginé entrant dans un théâtre en compagnie d'une Simone âgée de 10 ans. Mais l'illusion a été brève. On ne trouve pas de salle de spectacle au-delà de l'orbite de Jupiter. Si j'ai pleuré, c'est en partie parce que ma fille ne connaîtra jamais ses grands-parents. Ils auront pour elle un statut de personnage mythique, uniquement vu sur des photos et des vidéos. Elle n'aura pas la joie d'entendre la voix harmonieuse de ma mère et de voir l'amour briller dans les yeux de mon père. Après la mort de ma mère, mon père a veillé à célébrer dignement tous mes anniversaires. Pour le 12e, peu après notre emménagement dans la propriété de Beauvois, nous allâmes nous promener sous la neige dans les jardins du château de Villandry. Ce jour-là, il me promit qu'il serait toujours à mon côté quand j'aurais besoin de lui. Nous suivions les allées en nous tenant par la main, lorsque je lui avouai en pleurant à quel point j'avais peur qu'il ne m'abandonne à son tour. Il me serra contre lui et déposa un baiser sur mon front pour sceller une promesse qu'il ne romprait jamais. J'ai passé mon précédent anniversaire à bord d'un train, dans ce qui est pour moi une autre vie. À minuit, je ne dormais toujours pas. Je revivais ma rencontre avec Henri dans ce chalet des pentes du Weißfluror. Je m'étais abstenu de lui dire qu'il était le père de Geneviève. Je lui avais refusé cette satisfaction.
Mais je me demandais si j'avais eu raison de taire à ma fille que son père était le roi d'Angleterre. Pouvais-je lui dissimuler qu'elle était une princesse uniquement par fierté? Telles étaient les questions que je me posais quand Geneviève entra dans mon compartiment.
Joyeux anniversaire, maman!
Elle m'étreignit et je faillis lui révéler la vérité sur ses origines. Sans doute l'aurais-je fait si j'avais su comment s'achèverait l'expédition Newton. Tu me manques, Geneviève. J'aimerais tant avoir pu te faire mes adieux. Les souvenirs sont des choses singulières. Ce matin, ils alimentaient ma dépression. À présent, ils me réconfortent. Simone ne connaîtra jamais la Terre et ses anniversaires seront bien différents des miens. Mais j'ai le privilège et le devoir de faire en sorte qu'il soit mémorable et exprime tout l'amour que je lui porte.